grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comme le faisait récemment remarquer le journaliste Éric Echiman dans Libération, il s'agit d'une théorie qui monte l'effondrement. Pour les collapsologues, les spécialistes de l'effondrement, le monde court à sa perte et il est déjà trop tard. Dans un proche avenir, notre civilisation thermonucléaire s'écroulera de façon inéluctable. Le saccage de la nature, le réchauffement climatique et la fin programmée du pétrole conduiront à l'effondrement de nos sociétés. Il va falloir se préparer psychologiquement à cet effondrement, à ce nouveau monde en ruine. Il va falloir bâtir un nouvel édifice dont nous ne connaissons pas encore les plans, mais qu'il faudra dessiner ensemble. Collaborer ou disparaître, telle est l'alternative, avec la nécessité absolue de tisser ou retisser des liens avec soi, avec les autres et avec la nature. Retrouver le sens de l'entraide, de la réciprocité et de l'humilité, et bien sûr éprouver un sentiment de gratitude envers notre planète qui subit nos activités humaines destructrices. Pour nous aider à affronter psychologiquement l'effondrement, le chercheur indépendant Pablo Servigne. Nous attendons toutes vos questions et réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. N'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie de l'effondrement. Et avec nous également, comme tous les mardis, Marie-Laure Zonshein de Femme Actuelle. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Vous m'avez manqué Christophe.
Ah ben écoutez, me revoilà.
Et on vous retrouve tout à l'heure avec vos choses vues. Vous avez beaucoup aimé le livre de notre invité.
Oui, c'est vraiment un livre passionnant. Ces deux livres sur l'effondrement, la collapsologie sont passionnants. Et à cette occasion, je vous parlerai dans la petite chronique d'agenda téléphonique, de fin du monde, mais aussi de poésie.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Pablo Servigne.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'ici depuis l'Isère. Vous habitez où
exactement? Dans la Drôme,
c'est juste à côté.
Au pied du Vercors.
Très bien, très belle région. Vous êtes scientifique de formation, vous avez fait des études en agronomie et de la recherche fondamentale en éthologie. Et vous publiez au Seuil avec Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle « Une autre fin du monde est possible » dans la collection Anthropocène. Et vous avez connu un très grand succès avec votre précédent livre « Comment tout peut s'effondrer ». Dans votre précédent livre, vous vous interrogez sur l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. C'est quoi exactement l'effondrement ?
Les effondrements, je dirais, il y a toute une sorte, tout un faisceau d'indices. Quand on s'intéresse au climat, il y a différents types d'effondrements, des courants océaniques, Et quand on s'intéresse aux écosystèmes, il y a les espèces, les forêts, etc. Quand on s'intéresse à la finance, des effondrements boursiers ou économiques. Il y a au niveau social, politique, il y a beaucoup d'effondrements possibles qui ont déjà eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu ou qui vont avoir lieu. Donc il y a des possibilités, voilà. Et nous, ce qu'on a fait, c'est relier tout ça, connecter toutes ces disciplines, tous ces faisceaux d'indices, tous ces risques aussi, et montrer qu'il y avait une possibilité, il y a toujours un degré d'incertitude radicale, une possibilité qu'il y ait des effets dominos et que tout ça s'interconnecte dans une sorte d'effondrement globalisé. Alors jusqu'à où ça peut aller, c'est ça la question. Parce que la civilisation thermo-industrielle, tout le monde moderne qui fonctionne sur les énergies fossiles, etc. Ça c'est assez puissant, mais c'est vulnérable aussi. Paradoxalement, on est une société très vulnérable. Et en fait, ça peut même aller plus loin. Parce que si on continue à bousiller la biosphère, on peut se prendre des retours de bâton et aller jusqu'à certains scientifiques parlent d'extinction de l'espèce humaine, voire d'extinction de beaucoup d'espèces sur Terre.
Alors il s'agit d'un processus à l'issue duquel les besoins de base ne seront plus assurés à une majorité de la population. Ces besoins de base, c'est l'eau, l'alimentation, le logement, l'énergie, la mobilité, la sécurité.
Ça, c'est une définition très pragmatique qu'on a prise, parce que les archéologues parlent d'effondrement pour signifier une baisse brutale de population dans une région donnée. Mais c'est quelque chose qu'on voit a posteriori, depuis le futur, disons, pour décrire une situation passée. Et nous, on a utilisé la définition d'Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement, eurodéputé, qui parlait, donc il est très au courant, très au fait de toutes ces questions, et il utilisait cette question très pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait dans nos sociétés quand l'ordre social vacille. Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on vit avec ça? Comment est-ce qu'on s'organise, etc. Donc c'est une question très pragmatique pour les générations présentes, d'où le sous-titre de notre livre. C'est pas une question de génération future, mais c'était un petit manuel de collapsologie pour les générations présentes.
Il existe une échelle de Richter de l'effondrement?
Oui, voilà. Et ce qu'on a voulu, c'est vraiment mettre du détail, des nuances dans ce mot qui peut paraître... Voilà, on met les pieds dans le plat, effondrement, c'est la fin du monde. On pense tout de suite à une mythologie hollywoodienne, à des images apocalyptiques, etc. Mais ça peut être très graduel. Et effectivement, il y a eu des effondrements dans l'histoire de tout type, de tout niveau d'intensité. Par exemple, l'effondrement du bloc soviétique, c'est pas la même chose que l'effondrement de la civilisation maya ou de l'Empire romain. Voilà, et mettre des nuances de gris, je dirais, là-dedans, ça a été tout notre travail de complexifier les choses. Et la question, c'est si un effondrement a lieu ou s'enclenche maintenant et peut durer quelques années, jusqu'à où on veut aller, jusqu'à quel stade, est-ce qu'on peut rebondir, et quelles sont les conditions aujourd'hui d'organisation pour qu'on rebondisse et qu'on n'aille pas jusqu'au bout, jusqu'à l'anéantissement de tout.
La science de l'effondrement s'appelle la collapsologie, c'est ça? C'est une discipline encore balbutiante?
C'est pas une discipline officielle, c'était une proposition. Nous, on a fait un tour d'horizon transdisciplinaire de tout ça. On s'est dit comment est-ce qu'on pourrait appeler cet exercice transdisciplinaire qui s'attache à penser, à comprendre et même à ressentir, mais on le verra plus tard, cette possibilité-là. Et même, pas cette possibilité future, même ce qui arrive, l'extinction des oiseaux, des scarabées, les catastrophes climatiques, etc. Ça nous touche profondément, très durement, psychologiquement, socialement, politiquement. Comment est-ce qu'on pense tout ça? Donc voilà, on a proposé ce mot et les chercheurs peut-être s'en empareront et créeront une discipline.
Alors dans le site The Conversation, l'universitaire Jacques Higalens nous dit que la collapsologie n'est pas encore une discipline scientifique, mais qu'elle a le mérite de produire une narration nouvelle de notre vie en commun.
Tout à fait. C'est ce que je dis souvent, l'effondrement, l'idée d'effondrement, c'est un récit. On a mis en récit des chiffres catastrophiques. Mais c'est pas seulement un récit, une mythologie, quelque chose de fictif. Ce sont des faits, des faits, des hypothèses, des théories, des expériences. Tout est mélangé. Et donc, on a fait la synthèse scientifique de ce qu'il y avait, l'état des lieux, de ce que la science pouvait prévoir. Et il y a un degré d'incertitude radical. Mais aussi, il y a des choses que la science ne peut pas appréhender. Toutes les questions éthiques, morales, émotionnelles, encore que il y a des études sur les émotions, mais spirituel, artistique, tout ça, c'est ce qu'on appelait la collapsosophie, du coup, pour essayer de bien distinguer ce qui était rationnel de ce qui était d'un autre ordre. Et en fait, on a besoin de tout ça. Moi, je suis scientifique et je me suis aventuré sur des questions. Dont je suis pas expert, mais qui sont passionnantes et qui nous ont servi à comprendre ce monde.
Pour vous, l'effondrement peut être une bonne nouvelle, surtout s'il s'agit de l'effondrement de notre monde thermo-industriel.
Oui, il faut savoir, en fait, il y a des choses qui vont s'effondrer et qu'on souhaite qu'ils s'effondrent. Il y a des choses qu'on ne souhaite pas. Je pense aux oiseaux, aux forêts, etc. Mais il y a des choses profondément injuste dans notre société, même carrément dégueulasse. Enfin, c'est une destruction vraiment affreuse de notre monde. Ça, on a envie que c'est. Enfin, moi, en tout cas, beaucoup de gens, j'en côtoie, ont envie qu'il y ait un effondrement de cette partie de notre société qui détruit la biosphère. Donc, où sont ça pose des questions stratégiques et des alliances. Qu'est-ce qu'on veut qui s'effondre? Qu'est-ce qu'on veut qui ne s'effondre pas?
Christophe André, vous avez lu l'ouvrage de Pablo Servigne et de ses co-auteurs.
Oui, ça m'a à la fois passionné et effrayé, évidemment, mais ça, Pablo Servigne le décrit très bien dans son livre. Notre cerveau est mal équipé pour écouter ces messages d'alerte que nous envoient les gens comme Pablo Servigne et les collapsologues, comme on pourrait les appeler, parce que finalement, d'abord, comme vous venez de le dire, on est moins sensible aux chiffres qu'aux histoires. Lorsque des chercheurs nous rappellent que tant pour cent des espèces d'oiseaux ont déjà disparu, etc., etc., bon, sur le coup, ça nous fait quelque chose, mais ça nous pousse, ça met pas notre cerveau en état d'alerte comme il faudrait que ça le mette. Il faudrait que ces chiffres, tout à coup, nous mettent pas seulement notre intellect, mais notre corps en alerte et qu'on se dise, punaise, il faut vraiment agir. Or, ça ne marche pas comme ça. Les chiffres nous font peu réagir, ce sont plutôt les histoires qu'on nous raconte qui auraient cette vertu. Et moi, j'ai été très sensible dans le livre, dans ces deux livres, à cette nécessité de savoir raconter un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer, pour sensibiliser le maximum de personnes, puisque l'enjeu, il est quand même là, hein, clairement.
Pablo Servigne.
Oui, absolument, c'est ce qu'on dit souvent, qu'on a plus peur d'une tarentule qui vient sur notre bureau que de la lecture d'un rapport du GIEC, alors que c'est abominable, un rapport du GIEC, ça parle de migration, de mort en masse, de possibilité de rupture,
ouais, Et ça nous fait pas battre le cœur.
Voilà, exactement. Ouais, ouais. Alors moi, oui, parce que je suis scientifique, je navigue dans les chiffres. Moi, j'ai lu des rapports du WWF, de Greenpeace, des rapports scientifiques abominables sur des chiffres qui m'ont fait pleurer, clairement. Mais parce que je suis dedans et c'est ma manière aussi d'être au monde. J'ai une formation scientifique, mais j'entends qu'il faut vraiment raconter, mettre en chair. C'est pas une prise de conscience seulement, c'est une prise d'émotion.
Ouais, ouais.
Il y a vraiment quelque chose qui doit pénétrer dans le corps et faire sortir. La peur peut sortir, mais c'est OK. On cherche pas à faire peur, nous. Nous, on a remarqué aussi qu'il y a dans nos conférences, nos interventions, il y a de la tristesse, il y a du désespoir, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a de la colère. En ce moment, il y a beaucoup de colère, de rage. Et dans toutes ces émotions, il y a des parts négatives qui sont compliquées à gérer dans la colère, mais il y a aussi des parts positives. Par exemple, dans la colère, il y a la rage de vivre, d'aller de l'avant. Dans la tristesse, c'est une marque de ce qu'on aime. On est triste que les oiseaux disparaissent. Ouais. C'est normal de ressentir ça. Quelqu'un qui ne ressent pas ça, c'est plutôt ces gens-là qu'il faut se méfier. C'est plutôt
Oui, mais c'est exactement. Moi, je pense que c'est normal et c'est souhaitable. Moi, c'est pas de la peur que je ressens en lisant votre bouquin, mais c'est une espèce de sentiment de tristesse incommensurable, de dire mais c'est pas vrai qu'on va être la génération qui aura détruit cette planète. L'inconvénient des émotions négatives que souligne Pablo Servigne, c'est que si on fait trop peur aux gens, au fond, ils vont se focaliser sur eux. Ils vont se focaliser sur leur nombril, sur leur sort, alors que la grande solution que vous prenez, et c'est en ce sens que j'aime bien cette nouvelle génération de lanceurs d'alerte sur la survie de notre monde, c'est qu'on ne s'en sortira pas tout seul en allant se planquer dans notre petit abri individuel.
On va largement y revenir. Un mot quand même, Pablo Servigne, sur le célèbre livre du géographe américain Jared Diamond, Effondrement, publié en 2005 et disponible en poche chez Folio. Il montre que toutes les civilisations sont mortelles et portent en germe leur propre effondrement.
Oui, c'est lui qui, avec son best-seller mondial, qui a vraiment mis ce mot et cette idée dans l'air. Le fait que nous sommes fragiles, de nous regarder, nous en tant que civilisation, notre puissance nous empêche de voir notre fragilité. Et en allant voir un travail de synthèse archéologique, il nous a montré aussi, nous a fait en miroir voir notre civilisation. Mais nous, on trouvait qu'il n'était pas allé assez loin sur la description aujourd'hui de notre situation. Alors j'ai appris qu'il allait sortir un livre pour compléter ça, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, etc. Mais il a fait un travail formidable pour mettre cette question sur la place publique.
Allez, vous pouvez appeler le standard de France Inter et poser toutes vos questions à Pablo Servigne au 01 45 24 7000. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Nicolas Bauve. À la réalisation, Stéphanie Texier. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. People gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, Tracy Chapman, Talking About a Revolution.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h25 et nous recevons le chercheur indépendant Pablo Servigne qui publie Une autre fin du monde est possible, vivre l'effondrement et pas seulement y survivre. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
Le continent sud-américain a été dévasté par une série de tremblements de terre. Le bilan définitif risque d'être bien supérieur à 2 millions de morts. Les scènes de désolation à Rio dépassent l'imagination. Deux secousses de 8,5 ont jeté une population aux abois dans la rue, la forçant à se disputer les dernières ressources disponibles. Ces images de la chaîne brésilienne Globo News ont moins d'une heure. La peur et le chaos gagnent la planète entière. Partout, des millions d'êtres désemparés se retrouvent dans les lieux publics pour s'unir dans la prière. Des prédicateurs de toutes les confessions prêchent dans la rue leur message de fin du monde à travers les États-Unis.
Repentez-vous, il est encore temps!
C'est irritant de se rendre compte que tous ces illuminés avec leurs pancartes étaient dans le vrai depuis le début.
Toute cette population dans les rues.
Pablo Servigne, elle est caricaturale, cette idée d'effondrement dans le film 2012 de Roland Emmerich?
Oui, c'est quand même caricatural, ça fait sortir une mythologie de l'apocalypse, c'est un inconscient collectif qui est très présent, et c'est assez facile de balayer ça d'un revers de main, de dire, apocalypse maya, et on rigole, et une petite blague, et on passe à autre chose. Et là, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, compiler des chiffres qui ne permettent plus de balayer ça d'un revers de main, et justement, ça nous invite plutôt à plonger dans les fictions, l'inconscient, les mythes, pour travailler cette question et s'imaginer, je dis bien s'imaginer, autre chose que ce genre de film. Mais ce film me fait penser encore que là il stimule la peur. Il y a d'autres choses à explorer que la peur. On disait colère, tristesse, mais il y a de la joie, il y a de l'excitation. Un effondrement, c'est aussi une renaissance, c'est aussi les possibilités, une opportunité, c'est aussi plein d'autres choses que des dystopies ou des choses...
Ce qui est parfois difficile à comprendre, c'est que l'effondrement est à la fois proche et lointain, lent et rapide, graduel et brutal. Il s'agira bien sûr d'événements climatiques, mais également politiques, économiques, sociaux. Et ce sont les historiens du futur qui diront s'il s'agissait d'un effondrement global ou pas.
Mais c'est très dur d'y penser, c'est très dur de réfléchir. En fait, c'est la question de notre propre mort, mais à l'échelle globale, à l'échelle d'une société. Déjà, on a du mal à penser notre mort... à penser, à sentir, ça fait peur, ça fait voilà, et on n'est pas très bien outillé pour ça, je dirais, dans notre société. Les rituels autour de la mort, enfin l'apprentissage, je sais pas moi, partout, même à l'école, dans la famille, c'est compliqué. Et là, on nous dit, il y a un effondrement de société, c'est la possibilité que notre société meure, et on n'est pas du tout outillé pour ça. Donc on fait un parallèle dans le livre avec la découverte de notre propre mort, la possibilité qu'on finalement on va mourir. Il y a la question du deuil, donc des émotions, ça met un cadre, ça permet de penser ça. Et puis il y a aussi la question de devenir adulte. Bon, ça mériterait beaucoup d'explications, mais en fait, un adolescent, il est dans l'infini, l'absence de limites, il veut pas souffrir, il veut pas mourir, il est en pleine expansion il a toute la vie devant lui. Et le passage à l'âge adulte, dans les sociétés premières, il y avait une initiation et on vivait une petite mort et les anciens nous guidaient et nous convertissaient en adultes, c'est-à-dire nous faisaient toucher notre vulnérabilité, notre conscience de la mort. Et à ce moment-là, on touche quelque chose de l'ordre de... Enfin, on peut revivre dans une communauté avec les proches en fraternité et avec la conscience de la vulnérabilité, c'est-à-dire l'ouverture. On est dans l'interdépendance dans l'adulte, alors que l'adolescent, il est dans l'indépendance. Il se croit tout seul, il n'a pas besoin des autres. Et là, actuellement, et on n'est pas les seuls à faire le constat, on est dans une société pato-adolescente, coincée au stade de l'adolescence. On veut toujours plus, on ne veut pas voir la mort, on ne veut pas voir la souffrance. Et il y a un passage à l'âge adulte à amorcer, là.
Pato, P-A-T-H-O, et non pas P-A-T-A-U-D. Christophe André.
Oui, oui, cette question de la mort de notre monde, hein, puisque là on parle de la fin d'un monde, si possible, plutôt que de la fin du monde tout court, elle est centrale, je trouve, parce que c'est frappant de voir comment la plupart des humains réagissent à l'idée de leur propre mort. En général, c'est par le déni. C'est Paul Valéry qui disait « L'homme est adossé à la mort comme le causeur à la cheminée », c'est-à-dire on lui tourne le dos et on pense à autre chose. Et c'est un peu comme ça avec cette histoire de fin du monde. Quand on lit ces infos, on est perturbé, puis dans l'heure qui suit, on passe à autre chose. C'est ça qui est hallucinant. Et le problème, c'est que les études dont nous disposons en psychologie sociale sur l'activation de la peur de mourir, quand on prend des volontaires et qu'on les fait songer indirectement, discrètement, au fait qu'ils sont mortels, on voit malheureusement que ça accélère le matérialisme et l'égoïsme. Donc, cette idée de fin du monde survenant dans une société capitaliste, matérialiste et égoïste, malheureusement, peut aussi avoir l'effet inverse de ce que nous voudrions, c'est-à-dire au lieu de faire prendre conscience aux personnes qu'il faut changer de comportement, elles vont encore se jeter plus à corps perdu, sans bien s'en rendre compte, dans des comportements de destruction.
Absolument, et c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer dans le livre, c'est que toutes ces questions psychologiques, émotionnelles, c'est pas un retour à l'individu. On parle vraiment d'une voix intérieure, la vie intérieure, c'est même le titre de votre dernier livre, Christophe André. C'est important, mais c'est pas du tout un retour à l'individu, une dépolitisation. Au contraire, si on vit toutes ces mauvaises nouvelles tout seul, on est foutu. Sombre, comme vous l'avez dit, dans la peur, une sorte d'anesthésie, on est sidéré, c'est impossible de se remettre en mouvement et en chemin. Et donc, en fait, c'est se rendre compte qu'on a besoin de déposer ça, de partager la tristesse, la colère, de se soutenir les uns les autres, et en fait, se rendre compte que c'est ça qui liait les communautés humaines depuis des milliers d'années. C'est les rituels de souffrance, de deuil, de perte, etc., qui soudent. Et c'est vraiment un ciment qu'on a perdu. Il y a quelque chose à recréer de collectif, et c'en est même politique. Ça nous apprend à tenir debout dans les tempêtes, individuellement, mais surtout collectivement.
Alors vous écrivez, Pablo Servigne, que le sujet de l'effondrement est un sujet toxique qui atteint au plus profond de l'être.
Ah oui, ça c'est un constat, je veux dire, moi je faisais des conférences il y a 5-6 ans et je balançais tous les chiffres en bon scientifique et ça détruisait beaucoup de gens. Il y a des gens qui partaient en pleurant et j'étais sérieusement atteint par tout ça, par tous ces chiffres. Mais plutôt que renoncer à ces chiffres, moi j'ai voulu apprendre à vivre avec. Et c'est la même question que la mort et la souffrance. On peut pas mettre ça sous le tapis, il faut apprendre à vivre avec. Et finalement, on sait qu'on va tous mourir, mais on a des années devant nous, comment on fait pour bien vivre avec ça? On a une maladie incurable, et ben comment on fait pour bien vivre avec? Et accepter la mort, accepter un possible effondrement de la société, accepter des souffrances, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire trouver les ressources ensemble pour pouvoir rebondir, pour pouvoir tenir debout et aller de l'avant. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la pulsion de vie dans tout ce qu'on dit. On n'est pas en train de désespérer les gens juste pour le plaisir.
Marie-Laure Zonschein, de Femme Actuelle.
Oui, aller de l'avant, il y a quand même quelque chose qui doit peut-être vous réjouir ou vous donner peut-être un peu d'espoir, c'est le comportement de ces millions de citoyens. Alors, il y a l'affaire du siècle, donc, qui souhaite 2 millions de personnes, qui souhaitent intenter un procès à l'État pour inaction climatique, les mobilisations pour le climat, on le voit dans plein de villes dans le monde, le vendredi sans école, des jeunes, les jeunes d'ailleurs, hein, ça, je crois que c'est important aussi de parler d'eux, qui se mobilisent. Et face à ça, on voit les pouvoirs publics qui mettent, allez, 2, 3, 4 ans pour prendre une énorme décision comme l'interdiction des sacs plastiques aux caisses des supermarchés. Donc là, on nage en plein délire. Donc de se dire que finalement, ce que vous disiez, d'aller de l'avant, de partager la colère, ça se passe quand même en ce moment.
Ça se passe, mais de manière spontanée. C'est voilà, il y a des pas de manière très coordonnée. Et mais ça va se passer. C'est pour ça que nous on dit qu'il faut anticiper les choses et devenir compétent en émotion, en rituel, en initiation peut-être. Alors c'est des propositions, ça peut paraître farfelu, mais commencer à devenir compétent là-dedans, c'est aussi se préparer à l'émergence de la colère, de la tristesse. Et quand elles émergent au niveau collectif, politique, ça peut faire des dégâts. Ça fait et ça fera des insurrections. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Les Gilets jaunes, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Si ça va faire un flop ou si ça va déboucher sur une révolution ou si ça va faire des avancées politiques, si on va rester dans un climat pacifié ou pas. Vraiment, on est dans une incertitude. Mais l'intention, c'est vraiment déjà de constater effectivement que ça ne va pas assez vite. Et que quand on verrouille tout au niveau politique, juridique, etc., ça, ben, à un moment, la cocotte minute boue et ça sort. Et ça sort de manière imprévue, imprévisible. Il faut que ça sorte. Donc voilà, à un moment, l'idée, c'est de prévoir ça. Et franchement, dans les militants climat, en ce moment, il y a beaucoup de choses sur la biodiversité chez les jeunes. Les gilets jaunes, il y a la question de l'énergie, la question sociale, la question des inégalités. Ça pète de partout. Vous l'avez dit, les jeunes générations sont très touchées. Moi, je constate ça dans mon public. Ils sont très sensibles. Vraiment, ils vont loin. Ils pensent déjà, ils sont déjà dans ce monde en train de s'effondrer. Et ils partent de là, ils ont un élan de vie. Donc, il y a un dynamisme incroyable. Et paradoxalement, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est trop, qu'est-ce qu'on fait ? C'est à la fois des petites victoires, comme la pétition, mais c'est pas assez. C'est un peu désespérant tout ça.
Bonjour Camille.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Lyon. Vous êtes en train de lire le livre de Pablo Servigne, Une autre fin du monde est possible.
Oui, alors je l'ai même déjà lu, je l'ai terminé. Et effectivement, ce que je dois... Déjà, bonjour Pablo, et merci pour votre ouvrage qui a... Alors, j'ai l'impression d'avoir une grande proximité avec vous, parce que derrière, j'ai regardé plein de vidéos de vous, j'ai regardé la mini-série Next, qui en parle très bien, tout ça, sur Internet. Et en fait, j'ai effectivement ressenti beaucoup de choses que vous avez décrites, c'est-à-dire d'abord un grand sentiment de tristesse. Je regardais mes enfants avec des larmes aux yeux en me disant « Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Mais finalement, pourquoi j'ai fait des enfants ?» etc. Et malgré tout, le livre ne m'a pas appris grand-chose sur les faits, parce que c'était déjà beaucoup de choses que je savais. C'est juste que vous avez réussi à créer un récit qui a donné un sens. Même si aujourd'hui, je ne considère pas qu'il y aura un effondrement, je me dis qu'effectivement, c'est possible et que, à mon échelle, je vais essayer d'œuvrer pour un monde un peu différent. C'était déjà le sentiment que j'avais de faire dans mes choix personnels, mais là, ça a pris une autre dimension. Et aujourd'hui, il n'y a plus du tout de tristesse, même si je suis catastrophé quand j'entends des nouvelles du type sur France Inter, sur une brève que Total a trouvé un nouveau champ de pétrole et qu'on est super content. Et que je me dis, bien sûr, ce que vous avez dit, ça va pas assez vite, il faut vraiment qu'on passe la vitesse supérieure, et monsieur, il est ravi d'avoir acheté un gros 4x4 et il me le montre avec des yeux pétillants. Et en même temps, à mon échelle, je me dis, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire? Donc, moi, j'avais un jardin, j'adorais jardiner, ben, j'ai agrandi mon jardin en me disant, ben, je vais chercher l'autonomie de ce point de vue-là, parce que ça me fait plaisir et parce que je sais ce que je mange. Voilà, donc il y a plein de choses. Et puis dans mes choix de vie aussi, ça m'a provoqué pas mal de réflexions et je pense que je vais changer de boulot d'ici peu.
Ce qui est passionnant avec Pablo Servigne, ce qui est passionnant avec vous, Camille, c'est que ces émotions désagréables que vous avez d'abord ressenties, la tristesse, la peur, l'abattement, ben, ça a donné naissance à de l'action, à du mouvement. C'est assez passionnant ça, Pablo Servigne.
Oui, mais c'est comme les phases du deuil. Au début, il y a une sidération, on est anesthésié, on ne sait pas quoi faire. Et peu à peu, l'émotion vient, il faut la laisser couler, il faut l'accueillir, il ne faut vraiment pas du tout la mettre sous le tapis. Et c'est le fait de faire passer tout ça, bah, ça libère en fait. On se sent infiniment bien après avoir pleuré un bon coup sur, je ne sais pas moi, les destructions de la biosphère. C'est honteux un peu de ressentir ça même. On n'a pas l'habitude de pleurer là-dessus. Et pourtant, si on se réunit et quelqu'un sait nous écouter et on sort ça, mais ça fait un bien fou. Donc voilà, même la colère, ça fait un bien fou de la sortir, même si elle est un peu honteuse dans notre société. Et je suis assez touché par ce que dit l'auditeur sur les enfants. Moi aussi, j'ai des jeunes enfants. J'ai rencontré...
Vous posez la question d'ailleurs dans votre ouvrage.
Mais oui, la question des enfants, on me la pose souvent. Est-ce qu'il faut faire des enfants ou pas? Il y a beaucoup de gens qui décident de couple, qui décident de ne pas avoir d'enfants aujourd'hui pour des raisons écologiques. Moi, je le comprends. C'était pas mon choix, mais c'est une vraie question. Et puis, moi, je trouve dans les enfants, il y a un élan de vie, il y a une connexion au temps long, au fil de la vie. Il y a quelque chose, moi, qui m'a ancré, mais c'est mon expérience personnelle. Mais c'est important. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Moi, ça m'a mis en mouvement, ça. Et je veux pas leur mentir. Et je suis assez franc avec les enfants et sincère. Et je pense qu'ils ont... Ils nous le rendent bien. Enfin, c'est pas une question de les déprimer, de leur dire la vérité.
Merci beaucoup, Camille, de nous avoir appelés. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre psychiatre préféré, Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Christophe André.
Alors, vous savez, à un moment de ma vie, j'ai essayé d'être moderne, de me servir par exemple de l'agenda électronique de mon smartphone. Bon, depuis j'ai renoncé, mais à l'époque, mes filles en profitaient pour me faire des blagues. Un jour par exemple, j'étais en train de parcourir mon agenda électronique pour voir un peu ce qui m'attendait, quand je tombe sur une date bizarre, un truc planifié pour 2068. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? J'aurai alors plus de 100 ans, ça doit être une erreur. J'ouvre la page et je lis. 1er décembre 2068, 18h, fin du monde. C'est bon, j'ai compris, c'est encore un coup de mes filles. À l'époque, elles me chipaient régulièrement mon téléphone pour y glisser de faux messages, des faux rendez-vous, des photos de grimaces loufoques. Mais comme aucune ne m'a jamais avoué être l'auteur de cette prophétie, je vous transmets tout de même l'info. La fin du monde, d'après le fantôme dans mon téléphone, c'est peut-être pour 2068. Sans rigoler, moi, la fin du monde, ça me touche. Je fais partie de la génération des baby-boomers qui a grandi avec la menace de la guerre atomique et les affolements survivalistes des grands anxieux qui se faisaient construire des abris, enterrés au fond de leur jardin, avec des réserves d'eau, boîtes de conserve, médicaments et tout le tremblement. Alors aujourd'hui, le discours des collapsologues me touche forcément, mais il a à mes yeux quelque chose de plus sympathique que ce que j'ai connu dans mon enfance. Ce discours n'est même pas de prophète de malheur, mais de chercheur, de penseur bien informé. Il ne nous pousse pas à la paranoïa ou à l'égoïsme, mais à la lucidité et à la solidarité. Il nous dit ce discours, oui, le pire va sans doute arriver. Oui, notre monde va sans doute s'effondrer, mais on pourra peut-être s'en tirer si on serre les coudes. Se serrer les coudes, mais aussi accepter de voyager léger et de vivre de peu, comme on le chantait déjà en 1991.
Pour la fin du monde. Prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements.
Et mes photographies,
laisse-les-là.
Et ma boîte à outils,
laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous, pour la fin du monde, pas besoin d'argent.
Eh oui, si notre monde s'effondre, nous aurons besoin de vivre avec moins, de faire le deuil de toutes nos dépendances énergétiques et matérialistes. Mais surtout, nous devrons comprendre qu'il sera alors inutile de vouloir survivre égoïstement, de seulement chercher un abri pour y vivre comme avant. Quand tout menace de s'effondrer, on se met à mieux écouter les histoires, les prophètes, mais aussi les poètes. Et voilà ce que nous dit l'un d'entre eux, Christian Bobin. « Fou celui qui se croit à l'abri. Je ne cherche pas un abri. Ce ne serait qu'un endroit pour y mourir sans bruit. Je cherche ce qui arrive quand on n'est plus protégé et qu'on n'a plus peur de rien. » Ouh là là, ça va nous faire bizarre de renoncer à toutes nos protections et à toutes nos peurs, mais ça va peut-être aussi nous faire du bien. Bon, en attendant, on fait quoi? Eh bien, on fait de notre mieux, on agit individuellement. Moins de voitures, moins d'avions, moins de viande, moins de plastique, moins de vêtements. On agit collectivement, en rejoignant des associations, en militant. On agit électoralement, en votant pour des politiques qui agissent vraiment pour l'environnement. C'est vrai, on ne sait pas si tout ça suffira, mais au moins, on n'aura pas de regrets. Et vous, cher Ali, vous voyez ça comment, le monde de demain?
Coussi, coussa. Et je vais me réfugier dans une montagne, probablement dans les Pyrénées, chez moi. Pablo Servigne.
Mais je suis très touché parce que vous parliez de survivalisme et on caricature souvent, mais je trouve ça ok de se préparer déjà, rien que faire des stocks d'eau et de nourriture, ça de 20 jours au lieu de 3 jours, ça évite déjà beaucoup de chaos, c'est déjà malin, mais ça suffit pas. il y a quelque chose de l'ordre de juste savoir bouffer, ça fait pas société. Et nous, dans notre livre, on voulait aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que... On veut pas survivre. Moi, j'ai des enfants. Je veux pas survivre toute ma vie avec eux. Je veux vivre. Donc, quelle est la différence entre survivre et vivre? Et c'est ça qu'on explore. Et dans votre livre, Christophe André, La vie intérieure, vous parlez justement de voir la différence entre l'urgence et l'essentiel.
Ce qui est urgent et ce qui est important.
Et ce qui est important. Ouais. Et donc, on est pris dans le quotidien, dans l'urgent, on a plein de rendez-vous, etc. Et à un moment, il y a une cassure. C'est un accident, une maladie, ou la possibilité, vraiment, une prise de conscience comme ça, incroyable, qu'il y a des catastrophes. Et à un moment, on va à l'essentiel. On se dit, mais non, mais j'ai pas besoin de ça. C'est comme l'auditeur. J'ai un petit jardin, je vais m'occuper de mes enfants, je vais vivre les dernières années. Peut-être qu'il y en aura 80, peut-être qu'il y en aura 2, on sait pas. Mais on va aller vivre bien et on va à l'essentiel. Et en ça, la prise de conscience dont on parle depuis le début de cette émission, elle touche à de la joie. Et on touche beaucoup de gens. Je rencontre beaucoup de gens qui sont dans cette joie d'aller à l'essentiel enfin, de se rendre compte, de changer de boulot, comme disait l'auditeur, de faire cette étape de vie intérieure.
Allez, vous pouvez poser vos questions à Pablo Servigne au 01 45 24 7000 et vous pouvez retrouver toutes les chroniques de Christophe André en vidéo sur le site de France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
Le lit était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs, mais j'avais oublié que tu m'aimais autant. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament, oui, j'avais oublié que tu m'aimais. Dans l'enclos ouvert à tout vent, j'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais. J'avais oublié.
J'avais oublié que tu m'aimais autant.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
10h47 et nous recevons ce matin le chercheur indépendant Pablo Servigne qui publie Une autre fin du monde est possible. Une question de Frédéric, une réflexion sur notre page Facebook. Ce qu'on fait chacun individuellement est dérisoire. C'est l'agro-industrie et la surconsommation qui nous bousillent. À part mes comportements et mon implication dans les associations, je me sens très impuissante. Pablo Servigne, sur cette impuissance.
Ah oui, ça c'est un sentiment très largement partagé. C'est le fameux colibri, on fait notre petite part. Mais en fait, ça ne suffit pas. Et il y a vraiment, dans cette question en filigrane, la question de l'organisation politique, des stratégies, des alliances, de la voie extérieure par rapport à la voie intérieure dont on parlait tout à l'heure. Les deux sont nécessaires. Une voie intérieure nourrit une voie extérieure, une possibilité de tenir debout, de s'organiser, etc. Et est vraiment dans les rencontres, dans le fait de, je sais pas moi, faire des cercles d'écoute de collapso comme on en voit partout qui émergent. Ça fait du bien, mais ça permet de retrouver le lien et du coup d'aller vers des actions de plus en plus politiques, parce qu'il y aura des conflits, il y aura des luttes, et il faut savoir s'armer intérieurement pour ça.
Bonjour Laurent Bopp.
Bonjour.
Merci d'avoir patienté. Vous êtes climatologue au CNRS et à Normale Sup, et vous affirmiez dans Libération du 22 novembre dernier que vous n'êtes pas fan du terme effondrement. Pourquoi ?
Alors, je suis pas fan du terme effondrement parce que j'ai l'impression que ce terme raconte une histoire, et on a besoin de raconter plein d'histoires, plein d'histoires possibles. Ça fait longtemps que je communique sur le climat, que comme Pablo Servigne, je raconte des chiffres d'abord, puis des histoires. Et au cours des années, je me suis rendu compte que raconter une histoire, ça suffit pas. Souvent, les climatologues ont parlé du scénario du pire, celui qui nous amène à 4, 5 ou 6 degrés de réchauffement en fin de siècle. Et on a besoin de plus que ça. On a besoin de raconter plusieurs possibilités de limiter le réchauffement, par exemple. Et donc, on a besoin de raconter plusieurs histoires. C'est pour ça que le terme effondrement, j'ai l'impression qu'il nous enferme un peu dans une histoire. Et je crois qu'il faut réouvrir et raconter des histoires.
Et ce thème de l'effondrement peut susciter, selon vous, des réactions du type « tout est foutu ». La peur, pour vous, est un frein à l'action.
C'est aussi un peu comme Pablo Servigne, dans la plupart de ses conférences. On a d'abord à la fois de la colère, de la tristesse, et il y a évidemment dans ces sentiments, il y a plein de possibilités, mais il y a aussi ce découragement. Je crois que, de la même façon, le GIEC a beaucoup communiqué, vous savez, sur cette limite à 2 degrés. Il faut limiter le réchauffement à 2 degrés, il faut limiter le réchauffement à 2 degrés. Et derrière cette communication, finalement, ce que j'ai vu se développer, c'est le sentiment que si on dépassait les 2 degrés, alors tout était foutu. Et que dans ce cas-là, à quoi bon faire des efforts, vu que probablement on va dépasser les 2 degrés de réchauffement. Et je crois que dans le dernier rapport du GIEC, ils ont fait un effort de communication important pour bien signifier que tout effort compte, et que, évidemment, 2,5 degrés, c'est mieux que 3 degrés, que 3 degrés, ça sera mieux que 3,5 degrés. Donc, je crois qu'il faut raconter des histoires. Il y a encore beaucoup de possibilités. Et j'ai un peu peur que le terme effondrement nous bloque dans une seule histoire.
Alors, le GIEC, je le rappelle, c'est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Quelle histoire avez-vous envie de raconter, vous, Laurent Bopp?
J'ai envie de raconter qu'il y a plein d'histoires. Alors, dans le dernier rapport du GIEC, dont vous parliez à l'instant, qui s'est focalisé sur un scénario où on limiterait le réchauffement à 1,5 degré, ce rapport du GIEC raconte plusieurs possibilités pour parvenir à limiter le 1,5 degré. Une société super techno, alors on peut aimer ou pas, une société où évidemment on irait plutôt vers une croissance économique ralentie, une société de partage où on partagerait les technologies, les avancées, etc. Donc il y a plusieurs histoires qui nous permettraient de répondre à cet objectif de 2 degrés. Ce que j'aimerais peut-être dire encore sur le climat, parce que je suis spécialiste du climat, il y a beaucoup d'autres crises, mais sur la crise climatique, et ça reprend quelques-uns des termes que Pablo Servigne a employés, je crois que c'est un défi pour moi formidable. Il est formidable parce qu'il est obligatoirement collectif. On peut régler le climat seulement à l'échelle globale. Que vous émettiez une molécule de CO2 en France, en Chine, aux États-Unis ou dans l'hémisphère sud, ça a exactement le même effet. Donc on a besoin de tous se mettre autour de la table d'un point de vue collectif. C'est pour ça que c'est formidable. Et puis le deuxième défi du climat, c'est le fait que c'est un défi multigénérationnel. Les efforts qu'on fait aujourd'hui, on n'en verra peut-être pas la couleur. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui en bénéficieront. Et donc c'est difficile, mais c'est formidable parce que c'est difficile, collectif et multigénérationnel.
Pablo Servigne, réponse à Laurent Bopp.
Mais je suis tout à fait d'accord, en fait, on traite cette question dans un chapitre sur les histoires, les récits qu'on se raconte. Et justement, le mot effondrement, pour nous, c'était une manière de mettre les pieds dans le plat, en fait, de sauter dans la flaque, de clasher comme ça. Et ça fissure les imaginaires. On se fige, on fait « Ah, il y a quelque chose qui a changé ». C'est plus une continuité, on n'est plus dans un truc progressif. Et alors cette fissure d'imaginaire, elle permet d'ouvrir des possibles, mais elle a le risque, comme dit Laurent, d'aplatir l'horizon. Et c'est ça dont il faut se méfier. Il ne faut pas que la collapsologie aplatisse l'horizon. Il faut qu'on puisse en permanence créer et ouvrir des possibles. Et en cela, je le rejoins.
Merci beaucoup, Laurent Bopp, d'être intervenu ce matin. Alors, Pablo Servigne, comment aller de l'avant face aux effondrements? Pour vous, d'abord, il faut se méfier de l'optimisme et de l'espoir. C'est étonnant.
C'était un contre-pied. Oui, évidemment, il y a plein d'études qui montrent que ça fait du bien d'être optimiste, de voir les bonnes nouvelles, pardon, et d'être dans l'espoir, et c'est ok. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a il y a certains écueils à l'optimisme ou à l'espoir. Et en fait, voilà. Mais
quels sont les écueils, tiens?
Pour pas faire trop long, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, moi, quand je présentais des articles dans des médias, des journaux, ils disaient, ah non, mais pas encore des mauvaises nouvelles, tu vas emmerder le public, tu vas lui faire peur, ça va l'empêcher de bouger. Non, on a réussi à parler des mauvaises nouvelles en stimulant les gens. Il y a beaucoup de gens qui changent leur vie comme ça. Donc, c'est ce que j'ai appelé les optimistes moins. Ceux qui ne veulent pas voir les mauvaises nouvelles, en fait, ils sont pris dans un déni, mais hyper optimistes. Et puis, il y a les optimistes plus, c'est ceux qui sont très au courant des mauvaises nouvelles, mais qui se bougent et qui pensent qu'on va y arriver. Moi, je suis plutôt pessimiste plus, ça veut dire que je vois fort les mauvaises nouvelles, mais je me bouge. Et les pessimistes moins, c'est ceux qui disent tout est foutu et là, c'est insupportable.
Se bouger ensemble, c'est le cœur de votre philosophie. C'est tisser, retisser des liens collectivement, ensemble. C'est comme ça qu'on s'en sortira face à la catastrophe.
Ou pas. Mais oui, c'est comme c'est une voie. C'est effectivement tisser des liens et faire du sens. Des liens et du sens, c'est ce que notre société occidentale, industrielle, moderne a asséché. Les sources de liens et de sens. Et quand je dis liens, bah, rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission, mais il y a le lien avec nous-mêmes, avec notre intériorité, ce que développe très bien Christophe André. Il y a le lien avec les autres, les humains. Et là, on a déployé beaucoup de choses dans le livre L'entraide, l'autre loi de la jungle, paru l'année dernière, aux liens qui libèrent, justement, les liens qui libèrent, pour montrer aussi que tout le monde vivant est pris dans des liens d'interdépendance et que ceux qui survivent, c'est pas les plus forts, c'est ceux qui arrivent à coopérer, qui survivent le temps long de l'évolution. Puis il y a des liens avec les non-humains, les animaux. Quel rapport on veut avec les plantes, les champignons, les animaux, et quel rapport on veut au sacré, à ce qui nous dépasse. Il y a plein de types de liens.
Et on s'y prend comment? On crée des communautés?
Bah là, en deux minutes, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de choses. Alors, on est assez maladroit, nous, dans notre société, et moi, le premier, parce qu'avec une culture rationnelle, rationaliste, scientifique, moi, j'ai découvert ça par des ateliers, en particulier ça s'appelle le travail qui relie, c'est de l'éco-psychologie, voilà, on décrit dans notre livre, mais il y a d'autres chemins pour se reconnecter à la nature, aux autres, etc. Ça m'a fait du bien, ça m'a maintenu debout, ça m'a apporté une résilience, ça m'a ouvert des horizons, ça a bouleversé mon imaginaire, ma confiance en moi, etc. Et chacun, je sais pas, il y a plein, on peut pas décrire.
Mais
tout ça,
reste mais à inventer face à l'effondrement.
Exactement, et c'est ça qui est stimulant, c'est que on a tout un monde à refaire. Et quand je parle avec des jeunes, ils me disent merci, vous m'avez ouvert une brèche. Là, dans mon imaginaire, tout reste à recréer, et on y va. Il y a de la joie, il y a de l'excitation.
Et vous dites une chose formidable dans votre livre: nous ne sommes pas sûrs de traverser ces tempêtes en restant indemnes, mais nous n'avons pas le choix. Il faut nous mettre en mouvement. Christophe André.
Oui, et moi ça serait ce que je retiendrai de ces bouquins passionnants, c'est qu'il faut que notre devise, ça soit pas tous aux abris, mais tous au boulot. Et puis on verra bien.
Pablo Servigne, et votre conclusion.
On n'a pas besoin d'espoir, on a besoin de courage. C'est ça surtout. Il y a Clément Montfort, le réalisateur, je crois que l'auditeur en parlait, qui en parle bien dans sa web-série documentaire Next. Il filme justement des gens qui ont eu ce déclic, comment ils vivent ça, ils traversent ça psychologiquement, c'est pile poil dans le thème de l'émission. Et c'est abordé un moment. L'espoir, il y a quelque chose, c'était votre question, pourquoi se méfier de l'espoir? Parce que dans l'espoir, il y a quelque chose de l'ordre de l'attente. J'espère qu'on va me sauver, j'espère qu'il y aura des solutions, j'espère que les ingénieurs vont trouver quelque chose. Et l'attente. Non, on a besoin de courage de s'y mettre maintenant, de mettre en place dès maintenant le monde qu'on souhaite. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de l'élan de vie qu'on trouve avec ce constat des catastrophes.
Merci beaucoup Pablo Servigne d'être venu ce matin. Je recommande, ainsi que Christophe André, la saine lecture d'une autre fin du monde est possible. Vivre l'effondrement et pas seulement y survivre, c'est publié au Seuil. Sachez que ce soir, la conférence depuis le studio 104 de la Maison de la Radio est diffusée dans une centaine de cinémas avec Mathieu Vidard et le neurologue Lionel Nakache, consacrée à la mémoire et à la concentration, aura lieu, comme c'était prévu, à 20h ce soir. Demain, nous verrons comment développer son esprit critique face à un océan de fausses nouvelles, apprendre à distinguer le vrai du faux, se méfier de nous-mêmes et de l'influence des groupes, des algorithmes qui nous confortent parfois dans nos croyances. Avec les chercheurs Sylvain Delouvet et Nicolas Gauvry, nous passerons également en revue quelques croyances qui mettent à mal notre esprit critique, comme le discours climato-sceptique, justement, la vie après la mort ou encore le conspirationnisme. Dites-nous comment vous faites pour résister à toutes ces fausses nouvelles, aux fake news. Question témoignage au 01 45 24 7000.